Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres, encore, oui, sur le site radioalpa.com. Cette semaine, une semaine encore riche en rebondissements, on aurait pu vous parler de la justice qui manque de moyens et qui n'a pas le temps de gérer certaines plaintes dont la hiérarchie judiciaire et le gouvernement ne font pas la priorité. Cette phrase fut niée cette semaine par le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep et l'humoriste d'extrême droite qui s'étouffe quand on lui parle de violence policière qui nous sert de ministre de la justice. La réaction de l'exécutif est très claire. Avec des annonces tonitruantes, attention ça va tonitruer, on va durcir les peines contre les délinquants sexuels. Ouais, pourquoi pas, qu'est-ce que ça change aux maladies mentales qui atteignent ces délinquants sexuels, et on va faire bosser plus les personnels de la justice, sous-entendu quand même, faudrait le rappeler, qui sont déjà noyés par la quantité de dossiers à gérer. En fait, de la com et encore de la com, aurait dit l'autre. En fait, la justice est en partie instrumentalisée par les dirigeants avec des priorités non assumées. Ces priorités non assumées, c'est premièrement la guerre aux pauvres. Avec de la justice d'abattage, ce qu'on appelle les comparutions immédiates, qui devaient permettre de désengorger les tribunaux, mais servent surtout à condamner vite et mal la débrouille. La multiplication des procédures d'expulsion grâce à la loi Casbah-Rian-Berger, la chasse aux fraudes sociales, vraies ou supposées, tout ça, c'est du temps de travail des parquets et des sièges. Deuxième priorité non assumée, la guerre à l'autonomie des populations. Pas de place hors des fourches codines étatiques, d'où des mobilisations policières et gendarmesques gargantuesques contre les free parties. Mobilisations très politiques qui amènent des contraventions et des contestations de délits, dont les contestations et les procès encombrent les tribunaux de police et les chambres correctionnelles des tribunaux judiciaires. La même chose lors des manifestations contre l'allègement de l'exploitation des êtres humains par la bourgeoisie détentrice de moyens de production de richesses. Lors de manifestations contre l'impunité des racistes au pouvoir en Israël, dans le massacre des populations palestiniennes, on va en reparler. Souvenons-nous d'un certain Jean-Paul de Lescot, responsable CGT Lillois, accusé d'apologie du terrorisme pour un tract d'octobre 2023. Il est condamné en première instance. Il a bien fallu instruire cette première instance. Il est ensuite relaxé en appel en mars 2026. Ah ouais, ça fait du temps tout ça. Cette affaire, parmi des dizaines d'autres, a demandé une instruction et le juge qui va avec, des procédures pleines de documents produits par les enquêteurs, du temps de présence physique au tribunal et finalement, beaucoup de bruit pour rien. On a la même dans les manifestations contre l'implantation des valeurs identitaires néo-nazies et fascistes en France et dans toutes les manifestations qui contestent l'action de l'État. Les libéraux au pouvoir ont leurs priorités. Sachez que ces priorités, quand on analyse froidement, ne protègent en aucune manière les populations. Ah, ça protège leurs prébendes et leurs privilèges, oui, ça c'est avant tout. Le meurtre d'une enfant de 11 ans a mis le feu aux poudres et la population s'émeut à juste titre. C'est du moins ce que je pense. Lundi 8 juin, plusieurs centaines de personnes sont allées dire leur colère devant la préfecture de Le Mans à 18h et devant le palais de justice, toujours à Le Mans, à 19h. Une info, un collectif de 150 associations appelle à se réunir tous les lundis devant les tribunaux pour obtenir un meilleur traitement des affaires pédocriminelles devant la justice. Ceux qui participent sans conteste à la protection des enfants. Mais ce n'est sans doute pas la seule solution pour réduire la prédation envers les plus faible dans nos sociétés. On s'en reparle à la prochaine manif. Ouais, on aurait pu vous parler également du corps. Qu'est-ce que le corps? Eh bien, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Le corps pond chaque année un rapport sur les perspectives des retraites. Ce coup-ci, c'est tombé le 11 juin. Mais des fuites ont précédé la sortie du rapport et toute la semaine, on a pu entendre les adorateurs du libéralisme économique nous vanter les bienfaits de la capitalisation et l'obligation de réformer le système de retraite. Bah ouais, c'est obligé, sinon il va s'écrouler. Alors ce qui serait bien, c'est de le rabioter un petit peu. Tiens, on va le rogner encore et encore. Depuis 1993, c'est comme ça. On enlève un bout. Mais c'est pour garder tout le reste. Bon, le tout le reste commence à devenir un petit peu portion congrue. L'obligation de réformer le système de retraite, c'est le discours habituel des libéraux depuis la première réforme d'ampleur en 1993. Mardi 9 juin sur France Info, vers 9h40, après la chronique de Fanny Guillochet, spécialiste des questions économiques et sociales qui a travaillé pour Challenge, L'Opinion et maintenant La Tribune, Ouais, ça vous dit à peu près ce qu'elle comprend de l'économie. C'est plutôt l'économie capitaliste basée sur les valeurs libérales. Ouais, l'économie socialiste, ça lui dit pas grand-chose. Pour les questions sociales, c'est un peu pareil. Eh bien, elle a travaillé pour tout ce beau monde, on lui doit... une chronique régulière sur France Info. Mais juste après, on a eu le droit à un économiste de l'Institut Montaigne, un laboratoire d'idées. Alors, think tank, comme on dit chez les anglo-saxons, ce laboratoire d'idées est libéral. Ah oui, libéral, bah, c'est clair, il a soutenu Emmanuel Macron en 2017. Et puis auparavant, il avait soutenu un certain Nicolas Sarkozy. Eh bien, vous n'allez pas le croire, Fanny Guillochet, l'économiste de l'Institut Montaigne, reprennent les conclusions du corps. Ils nous alertent, ils nous alarment même, et ils appellent de leur vœu à agir dans le sens du corps. En l'occurrence, allongement de la durée de cotisation et recul de l'âge légal. C'est dingue, non ? Qui aurait pu croire ? Mais voilà comment on fabrique l'opinion. À propos du corps, il faut savoir que l'ancien président du Conseil, nommé par le Premier ministre, a été remercié en 2023, après notamment avoir assuré que le gouvernement dramatisait l'histoire quand il y a eu le mouvement des retraites le dernier. Il se plaignait que les finances des retraites manquaient de recettes. Ah mais non, faut pas le dire ça. Mais t'es con ou quoi ? Un aspect qui n'est plus dans les tuyaux du nouveau président du corps, le tout à fait libéral Gilbert Sept. Eh bien devinez, le nouveau rapport du corps va exactement dans le sens des discours de la droite et de l'extrême droite. Il faut que le Pékin moyen travaille plus longtemps. Ah ben sinon c'est la catastrophe. Une catastrophe annoncée, c'est sûr, en 2070. Oui, parce qu'il voit loin. Hein. La bonne personne à la bonne place et le tour est joué pour vous faire croire et prendre des vessies pour des lanternes. Eh, ça marche à tous les coups. On aurait pu vous parler de nationalisme sportif depuis début avril, comme chaque année. De grands rendez-vous sportifs professionnels, donc avec des athlètes déguisés en support publicitaire, font l'actualité. Par exemple, les classiques du cyclisme. Et cette année, un Français gagne ou se retrouve sur le podium. Ah ben, il n'en faut pas plus pour le monter en épingle et occuper le terrain médiatique. On apprend ainsi le 4 mai que Paul Sexas participera au Tour de France et les pronostics vont bon train. Ouais ! Donc Paul Sexas participera au Tour de France. À chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va l'annoncer, ça va occuper un petit peu de terrain médiatique. C'est pas fantastique ça ? Eh oui, ça s'appelle du teaser. On tease les teasers. En mai, c'est un jeune tennisman qui donne l'occasion aux commentateurs sportifs d'exalter la nation. Moïse Kouamé, mais 17 ans, il est devenu, je cite, le plus grand espoir du tennis français. Ah bah, il y en a un par an. Hein. Bon, il est allé au troisième tour de Roland-Garros. C'est bien ? Non, mais c'est bien. Non, mais moi, je trouve que c'est bien. Bon, ça m'en fait pas bouger une, hein, mais c'est bien. En ce mois de juin, notre attention va être focalisée sur l'équipe qui représente la France à la Coupe du Monde de balle au pied. Pendant que les médias nous bassinent les rouleaux avec des médailles françaises, des titres de champion de ceci et de cela, mais français. Des lois passent, comme par exemple la loi d'urgence agricole, qui doit encore favoriser le modèle mortifère de l'agro-business. Il y a des guerres aussi qui continuent, grâce à des armes françaises, comme par exemple au Soudan, où le système Galix équipe des blindés, les blindés des FSR, des forces de soutien rapide, qui sont dans une guerre civile avec les autorités légales soudanaises. Eh bien, le système Galix, il a été vendu aux Émirats Arabes Unis, mais les Émirats Arabes Unis, alors qu'ils avaient promis normalement, puisque c'est une obligation, de ne pas les revendre, eh bien, les ont revendus aux Soudanais. Eh bien ça, l'Émirat Arabe Uni, c'est l'un des meilleurs clients de la France en termes d'armement. C'est cool, non ? Eh oui, pendant ce temps-là, il y a 1500 accidents du travail par jour. En moyenne, et 3 morts en France du travail par jour en moyenne. Mais tout ça ne fera pas l'objet de reportages à répétition, ni de dossiers au long cours, notamment parce qu'une partie des temps d'antenne de l'audiovisuel, des pages de la presse écrite, sont pleines. De quoi ? De nationalisme sportif, on vient d'en parler. Heureusement, il existe une presse sans pub, en particulier sur Internet. Tiens, on vous recommande par exemple Disclose. On vous recommande toute la galaxie Mutu, une vingtaine de sites d'infos militants que vous trouverez sur réseaumutu.info. Et pour tout savoir sur les mobilisations contre Eurosatory LG7, c'est là qu'il faut se rendre, réseaumutu.info. Et bien sûr, le portail du média Basta, trouvable sur portail.basta.media. Eh ben, comme quoi, il y a moyen de s'informer autrement qu'avec France Info. On aurait pu vous parler d'international. À Bruxelles, Jordan Bardella a été mal accueilli par les démocrates qui manifestaient devant le Parlement, mais très bien accueilli par le Vlaams Belang, un parti d'extrême droite flamand. Faut dire que les militants du Vlaams Belang sont régulièrement pris la main dans le sac en train de rendre hommage à des Waffen-SS ou de tendre le bras, ou de porter des croix gammées, ou les trois en même temps. À la manière de vulgaires militants du Rassemblement National, comme quoi, parfois, on se retrouve entre amis. On aurait pu vous parler parler de la Coupe du Monde de balle au pied. Son seul intérêt, c'est de savoir que depuis deux semaines, un mouvement social anime le monde de l'éducation au Mexique. Ah oui, parce que sinon, on n'avait pas le temps. Eh bien oui, encore un élément dont nous ne sommes pas informés, sauf par la bande. À l'occasion d'une compétition servant surtout à vendre des produits dérivés et occuper du temps de cerveau disponible. Aux États-Unis, on apprend cette semaine que par la grève, les salariés du SoFi Stadium... Ça s'écrit pas comme votre copine Sophie, non, c'est S-O-F-I. Le SoFi Stadium de Los Angeles. Les salariés du SoFi Stadium de Los Angeles, je vais y arriver, ont obtenu des augmentations de salaire et la garantie que la police de l'immigration, la fameuse ICE, n'interviendra pas aux abords de leur lieu de travail. Sinon, ils se remettent en grève. Comme quoi, ça peut fonctionner. On aurait pu vous parler de tout ça, mais finalement, on a préféré vous parler de la Palestine. Encore ? Eh ben oui, mais ça continue. Mercredi 10 juin, l'association France-Palestine Solidarité avait donné rendez-vous à la population pour un rassemblement place Saint-Nicolas à Le Mans à 17h. Lors de ce rassemblement qui réunissait quelques militants de l'association, distribuant des tracts, nous avons rencontré la présidente de l'AFPS Sarthe qui se présente elle-même. Attention, c'est très court.
Je suis Joëlle Franchet, présidente de France-Palestine Solidarité de la Sarthe.
Ah ben voilà, ça y est, c'est fini. L'AFPS est créée en 2001. C'est la fusion de deux associations de défense de la population palestinienne. Elle est présente sur tout le territoire à travers des associations départementales. Joëlle Franchet nous en dit un petit peu plus.
L'association France-Palestine Solidarité de la Sarthe est partie prenante de l'association France-Palestine Solidarité, une association nationale qui a pour objet de soutenir le peuple palestinien dans la réalisation de ses droits, dans l'obtention de ses droits.
Mais oui, parce que depuis octobre 2025, il y a un cessez-le-feu à Gaza. Alors on pourrait se dire, bah ça y est, les droits, ils les ont, ça y est, c'est parti. On a tous vu les grands de ce monde se féliciter de ce cessez-le-feu en 2025. Alors pourquoi distribuer des tracts intitulés « Israël sème la ruine et l'effacement » Voilà, c'était l'objet. Joëlle Franchet nous en dit un peu plus sur le sujet.
Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de cessez-le-feu, ni à Gaza, ni bien sûr au Liban. Tout le monde le voit, mais... Les gens semblent se contenter de cette déclaration américaine comme quoi il y a un cessez-le-feu. En réalité, il y a eu plus de 1000 morts à Gaza depuis le cessez-le-feu. L'armée israélienne avait borné sur une ligne jaune 50% du territoire de Gaza et que maintenant c'est 60% et que Netanyahou a visé 70%. Ça permet de tuer des Palestiniens qui... soit franchissent la ligne, soit ne sont pas du bon côté. L'idée, c'est quand même de les pousser le plus possible vers la mer, dans des tentes, puisque tout est détruit, et de favoriser le nettoyage ethnique. Quand ils seront vraiment acculés complètement, l'idée, c'est de dire ils partiront. Donc nous, on dénonce ça, parce que c'est un peuple qui a le droit de vivre comme un autre peuple, comme tous les peuples du monde. En plus, l'ONU avait demandé à Israël de tout faire pour éviter le génocide et n'ont pris aucune mesure, au contraire. Donc nous, on est là pour dire le génocide continue.
Et malheureusement, la réalité lui donne raison. À propos de la fameuse ligne jaune à Gaza, en octobre 2025, au moment de la négociation du cessez-le-feu, l'idée c'était 50% du territoire et donc le reste était dévolu aux autorités palestiniennes de Gaza. Je rappelle qu'aux dernières élections, c'est le Hamas qui l'a remporté. Et puis après, comme n'importe quelle organisation théocratique d'extrême droite, ils se sont dit « tiens, on n'en fait plus des élections ». Eh bien, cette ligne jaune, elle est matérialisée par des plots en béton avec des carrés au bout d'un tube enchâssés dedans. Voilà, donc ça fait 1m50 à peu près, vous voyez, le tout est peint en jaune. Alors du jour au lendemain, les plots sont déplacés, un petit peu plus vers la mer. Et voilà comment depuis octobre 2025, la zone d'occupation israélienne de Gaza est passée de 50 à 60% du territoire. Et Benjamin Netanyahou revendique 70%. Et chaque jour ou presque des combats avec des ordres d'évacuation pour les civils, comme au Liban, l'armée la plus morale du monde avance en tuant ceux qui s'approchent de ces soldats, hommes, femmes, enfants, qui seront ensuite décrits comme des membres du Hamas, tout simplement. Donc cette ligne jaune, elle est mouvante. On ne sait jamais trop quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça continue. Et à bas bruit, à bas bruit, sauf pour ceux qui subissent les bombardements, eh bien, ça continue. Ça continue, mais ça n'est plus dans les tuyaux des médias occidentaux. Bah oui, je rappelle quand même qu'il y a la Coupe du Monde de balle au pied, là. Et puis qu'auparavant, il y avait Roland Garros. Là, je parle que pour la France. Et puis auparavant, il y avait... Ah oh, bah, forcément, faut faire des éditions spéciales sur le sujet. À propos du génocide, eh oui, c'est un mot qui choque, qui gêne. Eh ben, en tout cas, le génocide continue, hein, puisque les ONG sont empêchées de travailler, les journalistes empêchés de travailler, les convois humanitaires sont empêchés d'entrer, et l'eau manque cruellement. Elle manque toujours cruellement, l'eau. Voilà, puisque c'est indispensable à la vie. Les structures d'assainissement de l'eau ont été touchées très rapidement par l'armée la plus morale du monde, qui reçoit ses ordres d'un gouvernement ouvertement suprémaciste juif. Alors pour tous ceux qui là d'entrée se disent « Ouais, ah, merde, on a affaire à un antisémite », je leur propose de se renseigner sur les pédigrés des ministres actuellement au pouvoir en Israël et je leur rappelle que le suprémacisme de n'importe quel genre est une atteinte à l'idée même d'humanité. La hiérarchie entre les êtres humains sur des critères de couleur, de religion, de sexe, de nombre de victoires à n'importe quelle compétition et tous les cloche-merlismes à la con, j'en passais du pire, sont des atteintes à l'idée même d'humanité. Donc l'armée la plus morale du monde qui reçoit ses ordres d'un gouvernement ouvertement suprémaciste juif a détruit très rapidement les sources d'eau potable à Gaza et les structures d'assainissement. En septembre 2024, après 11 mois de guerre, Pedro Arrojo Agudo, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'accès à l'eau, disait « En droit international, le blocage systématique de l'aide humanitaire et de la nourriture est considéré comme un crime contre l'humanité dans la catégorie extermination d'une population. » Et l'eau est la nourriture principale dont nous avons besoin pour survivre. Si en plus de cela, l'eau à disposition n'est pas potable, elle devient le plus terrible vecteur de maladies et de morts qui existent. Donc dans ce cas présent, il parlait donc de ce qui se passait à Gaza en septembre 2024. Donc dans ce cas présent, l'eau est clairement utilisée comme une arme de guerre. Par l'armée la plus morale du monde. Empêcher les habitants d'un territoire d'avoir accès à l'eau est considéré comme un crime contre l'humanité et participe à la volonté génocidaire des dirigeants actuels d'Israël. C'est un fait. C'est malheureusement un fait. Est-ce que ça veut dire que tous les juifs du monde entier sont complices? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que tous ceux qui disent, qui défendent les autorités actuelles d'Israël sont complices de ce génocide. Gaza n'est pas la seule cible du gouvernement israélien. Non, non, on écoute Joëlle Franchet, présidente de l'AFPS Sarthe, sur le sujet.
Sinon, en Cisjordanie, depuis le 7 octobre, il y a eu une accélération de la colonisation très très importante. Des communautés entières qui sont poussées, obligées de partir de chez eux. Il y a la violence des colons qui est débridée totalement, puisqu'ils ont le droit d'être armés, qui sont protégés par l'armée, qui détruisent tout, quoi. Enfin...
Oui, elle est dépitée. Alors, après, il y a eu un petit blanc, et puis elle m'a dit bah, je ne sais pas trop comment décrire. Je l'ai enlevé, ça. Parce que cette semaine, il y en a d'autres qui le font très très bien et malheureusement c'est édifiant. Cette semaine encore, Amnesty International pointe du doigt les déplacements forcés de tribus bédouines en Cisjordanie, obligées d'habiter là où les autorités israéliennes les parquent. Le rapport est intitulé « Éradiquer toute présence palestinienne, le nettoyage ethnique des communautés bédouines et pastorales de Cisjordanie par Israël ». Et ben c'est comme à chaque fois, je le disais, édifiant et ça montre la volonté des dirigeants israéliens de pousser au maximum la colonisation des terres palestiniennes par les fondamentalistes religieux appelés colons qui veulent reconstituer le grand Israël promis par Dieu au peuple hébreu. Voilà où on en est. Ça se passe en ce moment avec des actions ignobles, comme par exemple bombarder des gamins avec du gaz lacrymogène sur le chemin de l'école. Et donc les repousser, les empêcher d'y aller à l'école. Voilà, vous faites ça plusieurs jours d'affilée. Et puis à un moment, les parents disent « Ouais, ben non, tu restes à la maison, petit. » Voilà ce que fait l'armée la plus morale du monde en Cisjordanie. À propos d'ignobles, parlons des prisonniers palestiniens.
Les prisonniers palestiniens, oui. Il y en a environ 10 000. Donc, ils sont emprisonnés en Israël, ce qui est déjà illégal. Parmi ces prisonniers qui sont très, très maltraités, on a vu quelques vidéos qui montraient l'humiliation permanente. Il y a eu des rapports sur les viols, etc., sur les maltraitances. Parmi ces prisonniers, il y en a environ 4 000 qui sont enfermés sans motif. Et je voudrais parler du docteur Abou Safia, qui est un médecin pédiatre de Gaza qui a été kidnappé donc par l'armée israélienne quand ils ont détruit l'hôpital Al-Shifa de Gaza. On lui a reproché de ne pas vouloir abandonner ses malades. Ça fait 500 jours qu'il est emprisonné, sans motif. Le qualificatif, c'est combattants illégaux, avec dossier secret. Là, il vient d'être mis à l'isolement, on ne sait pas pourquoi. On demande sa libération, ainsi que celle des autres soignants.
Oui, parce qu'il n'est pas tout seul à être enfermé. Mais il est enfermé comme administratif. À peu près 40% des prisonniers israéliens sont des administratifs. Qu'est-ce que c'est ? Ben, on a ça un petit peu partout. C'est le flou de la détention administrative qui a été utilisé par exemple par les États-Unis à Guantanamo. Vous êtes arrêté, mais le fameux habeas corpus, qui date quand même du milieu du Moyen-Âge, hein, ne s'applique pas. C'est-à-dire que les règles de base de justice ne s'appliquent pas. Vous ne savez pas de quoi vous êtes accusé, vous n'avez pas de défense, vous n'avez pas toutes les... J'ai perdu le mot. Vous ne pouvez pas vous défendre comme n'importe quel justiciable. Donc ces règles de base ne s'appliquant pas, vous êtes comme dans une oubliette moderne. Pas de procès, pas de prise sur le temps judiciaire, puisqu'il n'y a pas d'obligation, vous êtes un prisonnier administratif. Et l'ONU a placé Israël, en plus, sur la liste noire des pays et structures non étatiques coupables de violences sexuelles sur des prisonniers, comme le Hamas et comme plein d'autres pays. Des accusations appuyées par des témoignages, par exemple des membres des flottilles arrêtés illégalement par l'armée, la plus morale du monde, dans les eaux internationales. Quand ces personnes reviennent, elles le disent, oui, j'ai été agressé. Alors bon, torturé, voilà, bon, c'est ce qui se passe aussi pour les prisonniers palestiniens. Et en plus, j'ai été agressé sexuellement. Eh bien, ce genre de choses ne devrait pas exister. Et pourtant, l'armée la plus morale du monde s'y colle. Et a priori, en toute impunité, puisque quand des soldats israéliens sont accusés d'avoir agressé sexuellement des prisonniers, eh bien, ils s'en sortent avec presque rien. L'impunité des soldats montre que vous pouvez continuer à agir dans ce sens-là. Bon, tout ce que je vous dis là est avéré. Mais ça fait de moi et de tous ceux qui le rappellent des antisémites. C'est l'arme ultime des génocidaires au pouvoir en Israël. L'ONU est accusé d'antisémitisme. Amnesty International est bien sûr antisémite. Les soutiens du droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes, et peu importe d'où ils viennent et où ils vont, sont antisémites. Par exemple, l'Union juive française pour la paix. Eh bien, elle est antisémite. Et c'est pas nouveau. En 2010, un certain Richard Goldstone, juge sud-africain, fait un rapport sur l'opération Plomb Durci, qui avait déjà eu lieu à Gaza. Il assure être juif et ami d'Israël. Il le dit lui-même. Eh bien, rien n'y a fait, il sera accusé d'antisémitisme par les autorités. L'antisionisme et l'antisémitisme, voilà l'entretien d'un flou. Un flou par ceux qui sont véritablement antisémites, mais qui sont un flou qui est renforcé notamment par les autorités françaises, à travers une loi qui s'appelle la loi Yadan, qui est devenue maintenant la loi Berger. Faire taire toutes les voix qui ne soutiennent pas le nationalisme israélien, voilà l'objet. Eh bien, ce nationalisme israélien, il s'appelle le sionisme. Personnellement, les nationalismes de tout poil m'emmerdent. Ils sont tellement bien décrits par Brassens dans La balade des gens qui sont nés quelque part que je vous y renvoie. Alors, que faire, comme disait l'autre ? On est à 3000 km de là-bas, on est au Mans. Eh bien, on écoute Joël Franchet.
Réclamer que la France et l'Europe se positionnent d'une manière plus efficace, mettre en application leurs obligations vis-à-vis de la prévention du génocide. Là, on a interdit Smotrich et Benvir, qui sont les ministres les plus extrémistes, en tout cas ceux qu'on voit, parce qu'ils ne sont pas tous seuls, de venir en France, par exemple. Mais par contre, le Premier ministre israélien, alors qu'il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il peut quand même survoler la France. Donc ça, c'est des choses qu'on dénonce. L'Europe a passé des accords économiques préférentiels avec Israël, à condition qu'ils respectent la clause numéro 2 des accords qui concerne les droits de l'homme. Cette clause est violée, tout le monde le sait, mais les accords ne sont pas dénoncés. Il y a une initiative d'une pétition européenne pour que le sujet vienne sur la table à un moment, au niveau de l'Europe, quoi, du Parlement et de la Commission européenne.
Eh bien, cette pétition, elle est sur le site france-palestine.org, donc le site de l'AFPS. Vous allez dans l'onglet mobilisation, vous cliquez sur pétition et appel. Celle dont parlait la présidente de la section sartoise de l'AFPS se situe à la date du 22 janvier. Et elle s'intitule « Justice for Palestine, stop you trade with criminals ». En parcourant le reste du site, vous apprendrez que l'AFPS soutient le théâtre de Jenin, la création d'écoles à Gaza, les maisons des femmes en Cisjordanie, Jordanie et plein d'autres initiatives. Et d'ailleurs, est-ce que l'AFPS a une actualité ? On redonne la parole pour la dernière fois à Joël Franchet de l'AFPS Sarthe.
Est-ce que l'AFPS a une actualité ?
Le 23 juin à 20h au Cinéaste, il y aura la projection du film de Yanis Mamdi, Alice au pays des colons. Ce film nous donne à voir en direct la colonisation et la résistance des Palestiniens non violentes à cette colonisation. Donc ce film est assez important et permet de comprendre la situation palestinienne. Et donc on sera présent avec Amnesty International pour discuter aussi avec les gens. Et on tiendra un stand de vente de produits palestiniens avant le film. Voilà.
Et peut-être après, bon ben, rendez-vous le 23 juin au Cinéaste. On va pas pouvoir vous parler de beaucoup d'autres choses, seulement vous rappeler qu'à 14h tous les samedis, il y a une manifestation de soutien, de solidarité avec les Palestiniens, les Libanais et tous ceux qui sont attaqués par l'armée la plus morale du monde, mais aussi tous ceux qui se font attaquer par toutes les armées qui se présentent à chaque fois comme les plus morales du monde. Il y a des postières et des postiers de louer qui se battent. Pourquoi ? Pour leur... leurs conditions de travail, eh bien, il y a un rassemblement le 15 juin à Loué, au centre courrier de Loué, à 9h15. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe dans notre belle région, n'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net. Et puis, dans le réseau Mutu, .info, cliquez sur larnapé.info. Larnapé, c'est le fait qu'il pleuve, c'est une averse, c'est un truc qui va nous tomber dessus. Et c'est de l'information aussi militante dans la Sarthe et la Mayenne. En attendant de se retrouver peut-être lundi prochain dans une manifestation devant un tribunal pour réclamer que la justice serve la population et pas forcément la politique de droite et d'extrême droite de certains qui sont au gouvernement, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.